Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Donc c'est la première édition de cette nouvelle année 2019. Et au nom de toute notre équipe de Micro Rebelle, ben, je vous présente nos voeux les plus chaleureux, nos voeux les plus sincères, nos voeux les plus combatifs aussi, hein, nos voeux de lutte en cette période de révolte sociale que nous apprécions particulièrement. Alors je vous rappelle que Micro Rebelle Hebdo est diffusé chaque vendredi soir de 18h à 19h en direct sur micro-rebelle.fr et que ces enregistrements sont publics. Autrement dit, vous pouvez venir nous faire un petit coucou à nos studios au 13 rue Victor Hugo à Liévin. Vous pourrez rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, proposer des actualités, donner des idées de reportage. Et puis au-delà de micro-rebelle.fr, nous vous rappelons que Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios associatives hertziennes, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est en particulier le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Donc pour Radio PFM, c'est dès le vendredi soir à 20h, le lendemain matin, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Et nos amis de Radio Plus nous rediffuse le mardi à midi. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 en studio. Donc je suis Lucien, militant bénévole à Micro Rebelle. Et nous sommes également avec Luc, salarié de Micro Rebelle.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors Luc, toi, ces vœux de nouvelle année, tes vœux, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, voilà, comme d'habitude, hein, l'argent, la santé et la hargne.
Eh bien, nous sommes également avec Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Alors toi, tes vœux de nouvelle année, qu'est-ce que c'est ?
La santé, la réussite et voilà quoi.
Et puis on te souhaite la réussite pour tes partiels la semaine prochaine ?
Ah bah oui, bah merci.
Et enfin avec notre ami Jonathan.
Bah, bonsoir tout le monde.
Alors tes vœux Jonathan ?
Alors mes vœux, la réussite parce que bon, j'essaie de reprendre les études, donc du coup j'espère pouvoir réintégrer les études, voilà.
Eh bien écoute, on t'encourage très fortement dans cette voie-là. Alors, n'hésitez pas donc à nous retrouver sur microrebelle.fr. On va démarrer ce Micro Rebelle Hebdo par l'agenda culturel et social des jours à venir. Donc c'est Jonathan qui nous a préparé cet agenda. Je voudrais tout de suite vous préciser qu'à partir de notre site microrebelle.fr, vous pouvez accéder au blog des adhérents et adhérentes de Micro Rebelle. Et sur ce blog, vous avez l'agenda avec toutes les dates, tous les événements, tous les lieux de rendez-vous que Jonathan va vous préciser dès maintenant.
Alors ça va, il n'y a que 4 dates pour cette semaine. Donc on commence avec le mardi 8 janvier, il y aura une réunion d'information sur les compteurs Linky. Alors suite à la réception du courrier d'Enedis, de nombreux administrés nous interrogent sur l'installation prochaine du nouveau compteur Linky. Afin de répondre à ces interrogations, des permanences sont mises en œuvre par Enedis. Toutefois, afin de permettre à chacun d'exercer son libre arbitre et de se positionner en toute connaissance de cause, nous avons jugé nécessaire de laisser également la parole à l'ACAD. C'est une association qui milite contre la pose de ces compteurs. Ils organiseront ainsi une réunion publique d'information le mardi 8 janvier 2019, du coup, à 18h à la salle des fêtes Michel Dumoulin à Rouvroy. Passons à la prochaine date, le mercredi 9 janvier. Une réunion aura lieu également à 18h à l'hôtel de ville de Liévin. Cette réunion aura pour but de présenter les cahiers de doléances mis en place depuis le 2 janvier. C'est une réunion publique. Non, cette réunion est publique, donc vous pouvez y assister pour revendiquer des propositions qui ne sont pas stipulées dans ces cahiers. Même date, le mercredi 9 janvier, il y aura un ciné-sandwich autour de Rosa Luxembourg, documentaire de Marcel Bluval avec Dominique Villez-Poiré, spécialiste de cette militante anti-impérialiste et théoricienne du marxisme à l'occasion du centenaire de la révolution spartakiste. Plus d'infos sur libertehebdo.fr. Alors c'est mercredi 9 janvier, comme je vous l'ai dit, à 19h à l'espace Ronnie Cooter, 28 bis, boulevard des Flandres à Grenay. Réservation indispensable par téléphone au 03 21 49 65 50. Enfin, pour terminer cet agenda, à partir de jeudi 10 janvier, il y aura une formation « Comprendre la démocratie et l'Europe ». 5 jours de formation gratuite animée par Paul Masson, les 10, 11, 16, 17 et 18 janvier, à la Maison du Monde Ouvrier, 9 rue de Jérusalem à Arras. L'Europe ne dit pas ce qu'elle fait. Elle ne fait pas ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle ne fait pas. Elle fait ce qu'elle ne dit pas. Cette Europe qu'on nous construit, c'est une Europe en trompe-l'œil, dit Pierre Bourdieu. Alors cette formation aura 4 jours pour comprendre l'Europe et la démocratie, plus une journée pour l'expliquer simplement. C'est bon.
Bien, merci Jonathan. On vous propose maintenant, comme chaque semaine, une petite revue de presse. Alors, on s'est partagé le travail, Aurélie et moi. Donc, je vais commencer par évoquer un article paru dans Liberté Hebdo cette semaine. C'est un article intitulé « 3 jours sans chauffage et sans eau chaude ». Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un article sur la précarité énergétique ou sur les fins de mois difficiles. Non, c'est un article qui s'appuie sur un témoignage vécu concernant une personne qui s'est fait couper le chauffage et l'eau chaude, donc couper le gaz, parce que son contrat en ligne sur Internet était mal rempli et donc non valable. Alors en quelques mots, l'article de Liberté Hebdo détaille un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est le témoignage de Marc, qui était un retraité. Il constate un peu avant Noël qu'il n'a plus accès au gaz. Donc, plus de chauffage et plus d'eau chaude. Après une longue enquête, notamment sur Internet, il est allé voir sur son compte, il constate que Engie ne lui prélève plus la fourniture de gaz. Autrement dit, son prélèvement mensuel n'est plus honoré. La raison est très simple. Il a modifié son contrat en ligne, puis il s'est rétracté. Alors, Engie, ou plutôt le logiciel d'Engie, n'a pas enregistré la rétractation, mais annuler le contrat dans les faits. Et donc ce n'est qu'après plus de 48 heures que Marc a pu se faire rétablir la fourniture de gaz. Donc Liberté Hebdo souligne que Marc a, durant cette période, vécu au plus près la dématérialisation et la déshumanisation des services dans le cadre de procédures informatiques inutilement complexes avec absence d'écoute et de bon sens. Alors plusieurs articles, vous vous en doutez, dans la presse locale, La Voix du Nord, L'Avenir de l'Artois, reviennent sur la période de Noël vue du côté du mouvement des Gilets jaunes. Alors globalement, la mobilisation reste fermement ancrée localement. Excusez-moi. L'Avenir de l'Artois évoque le quartier général que les Gilets jaunes de Bruay-la-Bussière tiennent sur un bout de trottoir face à Cora. Ce QG leur permet de rallier les autres endroits où les Gilets jaunes interviennent, par exemple au bateau à Calonne-Ricouart. La Voix du Nord relate les échanges des Gilets jaunes du camp du bord des eaux à Hénin-Beaumont. Micro-Rebelle a fait plusieurs reportages à ce sujet. Il y a notamment Priscilla, jeune maman de 25 ans, et qui explique qu'elle est encore une charge pour ses parents. Ou encore Stéphane, père de 3 enfants, qui songe à vendre sa maison pour tenter de s'en sortir. La presse locale évoque enfin la Marche Blanche, organisée à Lens dimanche 30 décembre, en hommage aux 11 personnes qui ont perdu la vie ou ont été blessées depuis le début du mouvement. L'emblème funèbre de cette marche, ce sont des croix avec l'inscription « Je suis gilet jaune », des croix surmontées d'un petit drapeau tricolore. C'est sans doute dommage de considérer que toutes les victimes se reconnaissent dans un emblème religieux tel une croix. Quant au drapeau tricolore, on peut douter du fait que le nationalisme et ses emblèmes soient des valeurs qui permettent d'être au clair concernant les responsables de l'austérité que dénoncent avec clairvoyance les Gilets jaunes. Parmi justement les dénonciations et revendications des Gilets jaunes durant cette marche blanche, La Voix du Nord cite « Place Salengro, vers 9h, tous les âges se mêlent. Un cahier de doléances et un stylo circulent. On croise un quatuor de retraités venus de Béthune en covoiturage. Ce qu'ils ont écrit, ce pourquoi on se bat depuis le départ, la revalorisation des retraites et des bas salaires. On n'est pas les plus malheureux. On a bossé toute notre vie, mais on a quand même du mal à s'en sortir », confie Denis. La toute dernière information relatée par la presse locale concerne la réunion publique organisée par la municipalité de Liévin ce mercredi 9 janvier à 18h à l'hôtel de ville. Jonathan nous l'a annoncé dans son agenda. Reprécisons les choses. C'est une réunion organisée par la ville dans le cadre du débat national annoncé par Emmanuel Macron. Les Gilets jaunes du territoire ont tenu à préparer cette réunion en amont. Cela s'est fait mercredi 2 janvier et c'était l'occasion pour les Gilets jaunes d'élaborer leur cahier de doléances qui seront présentés publiquement le 9 janvier au maire de Liévin. La Voix du Nord de ce vendredi 4 janvier nous donne quelques indications sur ces doléances des Gilets jaunes de Liévin. C'est très intéressant parce que sincèrement, on n'est plus du tout sur des aspects qui concernent la hausse des carburants. Il y est notamment question de la réalité que vivent les personnes handicapées, les retraités, les chômeurs et les chômeuses, les étudiants et les étudiantes, les infirmières, les infirmiers. Quelques doléances s'expriment fortement, comme par exemple l'indexation des retraites sur le coût de la vie, l'augmentation du SMIC à 1800 euros, ou encore la possibilité de révoquer les élus, que ce soit au niveau local ou national. D'autres propositions sont plus sujettes à discussion. Par exemple, dès qu'on remplace un salarié par une machine, on devrait mettre une taxe, ou encore plafonner les dividendes des actionnaires. La Voix du Nord évoque enfin « Beaucoup ont plein de choses à dire et envie de s'impliquer dans la vie de la cité sans trop savoir comment s'y prendre. » Rendez-vous donc mercredi 9 janvier, Hôtel de Ville de Liévin. Et bien voilà, je vous l'ai dit, cette revue de presse a été également préparée activement avec Aurélie, à laquelle je donne maintenant la parole.
Merci. Donc, dans L'Avenir de l'Artois, paru le 3 janvier, un article parle d'Adrien Philippe, un Calonnois de 30 ans qui part en guerre contre Amazon. Donc Amazon, qui, rappelons-le, est une entreprise qui peut vous livrer à vous, consommateurs et consommatrices, absolument tout et n'importe quoi, et cela dans un temps record. On aurait donc tendance à croire que tout le travail derrière ce géant multinational est produit par des machines haut de gamme avoisinant une réussite de 99,9%. Or, dans la réalité, ce sont des humains haut de gamme que le géant Amazon essaye de stimuler par une production des plus optimales. Il n'y aurait donc aucun problème si cette stimulation était bénéfique pour l'employé qui travaille sans relâche au sein de l'entreprise. Aucun problème, de même si les promesses d'embauche étaient réelles et si les supérieurs stimulaient leurs chers employés à coup de compliments plutôt qu'à coup de renvoi ou de reproche. C'est ce qu'Adrien explique dans l'article, je cite « Ce n'est jamais assez. Il faut encore augmenter le rythme, même si je suis dans le top 3 des employés en tant que préparateur. Car oui, chers auditeurs, travailler à Amazon, c'est s'investir corps et âme. Expression qui semble être prise au pied de la lettre par Amazon. Donc je cite, à 197% des objectifs journaliers, perd 10 kilos, il joue le jeu. Achète un t-shirt pour une journée à thème, fait du covoiturage pour aller travailler. Et Adrien n'est pas le seul. Je cite, les intérimaires sont nombreux à raconter qu'on les a mis dehors sans ménagement alors qu'on leur promettait des prolongations ou des embauches en fonction de leur production. Amazon, une entreprise aveuglée par sa production qui ne tient pas ses promesses, c'est bien ce qu'Adrien dénonce. Ouvrez les guillemets. Quelques semaines plus tard, persuadé d'avoir fait son trou, les choses changent quand il pose un arrêt maladie pour accompagner son fils malade à l'hôpital. C'est pour toutes ces raisons qu'Adrien a écrit au patron d'Amazon, Jeff Bezos, au président de la République et à Muriel Péricot, ministre du Travail, pour dénoncer les conditions d'embauche. Alors, la question se pose, jusqu'où Amazon ira pour être au top de ses performances? Et est-ce qu'ils vont en gage de bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2019 être plus à l'écoute de leurs employés, sans qui, rappelons-le, ils ne sont rien? Dans Politis, un article cette semaine est à propos de la place des femmes dans les mouvements sociaux jusqu'aux Gilets jaunes, avec l'historienne Michèle Zancarini-Fournel. Donc c'est en effet une question très contemporaine. On peut parfois avoir l'impression que les femmes sont peu, voire très peu présentes dans les mouvements sociaux. Or, Michèle Zancarini-Fournel explique, ouvrez les guillemets, « Chaque fois qu'il y a des femmes dans un mouvement populaire, on dit que c'est une des premières fois, qu'elles participent. » Elle rappelle ensuite que, au contraire, les femmes ont participé aux révoltes frumentaires dès le XVIIe siècle, mais aussi à la Révolution française. En effet, les femmes ont toujours été là, mais selon l'historienne, on ne les voyait pas ou on ne voulait pas les voir, notamment à cause des stéréotypes qui placent la femme en une ménagère parfaitement docile et l'homme en un mari, en chef de famille. Depuis quelques années, la femme fait parler d'elle, notamment par les hashtags MeToo, Balance ton porc, et les luttes contre le sexisme et les violences sexuelles. Et le monde a donc l'impression qu'elles sortent de nulle part, alors qu'en réalité, elles étaient les premières à s'insurger dans l'histoire. Et ce constat continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux Gilets jaunes, où on note une forte présence féminine. Or, leur présence était tout aussi forte lors de la manifestation du 25 novembre 1995, qui comptabilisait environ 30 000 femmes pour la défense du droit à l'avortement. En résumé, Michèle Zancarini-Fournel met en avant l'idée que non, cette présence féminine n'est pas la première, mais qu'elle ne sera sans doute pas non plus la dernière. Les femmes, comme les hommes, défendent leurs droits, et cette idée risque de briser, en somme, de nombreux stéréotypes qui planent sur la gente féminine.
Eh bien, merci Aurélie, merci à Jonathan également pour l'agenda. On va s'interrompre pour une musique libre, Luc.
Pause musicale. Alors, on va écouter un pianiste russe virtuose dont c'est le premier album solo, bien qu'il soit ici accompagné de musiciens de renom tels que Gavin Harrison ou King Crimson, entre autres. Alors, le titre de la chanson, le titre tout court, c'est The Room et il s'appelle Gleb Kolyadin. Gleb Koliadine, The Room, vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, une émission enregistrée et diffusée sur microrebelle.fr, rediffusée sur Radio PFM et sur Radio Plus à Douvrin. Lucien, je te redonne la parole pour présenter le prochain reportage.
Oui, alors on va vous proposer deux reportages, hein, deux interviews d'ailleurs. La première interview, ben, elle va faire un petit peu la transition avec l'agenda et la revue de presse qu'on vient d'entendre. Autrement dit, on va continuer à parler du mouvement social. Alors comment est-ce qu'on a prévu cette interview? C'est à l'occasion de cette fin d'année, de ce début d'année, hein, donc on a eu l'occasion de rencontrer différents types de personnes. Et là, on a une militante qui est engagée en Normandie, au Havre, et qui est assez investie dans les mouvements sociaux locaux en Normandie. Donc on lui a donné la parole en lui posant quelques questions, des questions qu'on se pose à Micro Rebelle, qu'on a eu l'occasion de faire partager à nos auditrices, à nos auditeurs ces dernières semaines, à l'occasion de ce beau mouvement des Gilets jaunes, ce beau mouvement social. Donc c'est Laurence, je vous propose sans attendre de lui donner la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cela fait plusieurs semaines qu'on traite du mouvement des Gilets jaunes et notamment de l'actualité sociale, qu'on traite aussi du mouvement des lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'à l'occasion de cette fin d'année, on a eu l'occasion de rencontrer Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Laurence est elle-même investie dans les mouvements sociaux, elle vient de Normandie. Et on a profité de son passage pour papoter avec elle, hein, d'une manière générale, autour des thématiques qu'on a abordées récemment à Micro Rebelle, hein, puisque Laurence est elle-même investie, bon, pas par chez nous, mais c'est l'occasion aussi de confronter un petit peu les retours qu'on a par ici et ce qui peut se passer ailleurs. Alors, Laurence, j'avais envie de te poser une première question. On est à 10 jours maintenant du dernier week-end de mobilisation, hein, ce qu'on a appelé l'acte 5. C'était le week-end dernier, donc vendredi 14, une journée intersyndicale, et le samedi 15, l'acte 5 des Gilets jaunes. Alors, parmi les analyses qu'on a pu opérer, on se posait la question de la stratégie syndicale qui consiste à vouloir créer une mobilisation à côté de celle des Gilets jaunes, plutôt que de renforcer ce mouvement des Gilets jaunes. De votre côté, à vous, par chez vous, est-ce que vous avez, ou toi personnellement, est-ce que tu as des choses à dire sur ce point de la espèce de convergence syndicale qui n'existe pas avec le mouvement ou qui pourrait exister?
Bon, ce qu'on a tous remarqué, c'est qu'effectivement, les directions syndicales, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, elles n'avaient pas envie de pousser dans le sens d'une mobilisation. Elles se sont même démarquées de ce mouvement au début. C'est une position qui a changé pour la CGT notamment. Mais par contre, le mouvement des Gilets jaunes, ça a quand même été un mouvement de fond qui a quand même fait bouger la société, y compris des gens qui ne se mobilisent pas forcément d'habitude. Et ça a donné un espèce d'élan, une espèce de bouffée d'oxygène où la résignation à laquelle on était un peu habitué depuis des années, elle a un peu volé en éclats. On s'est rendu compte que c'était normal de poser, de parler de nos problèmes, normal de dire qu'on les acceptait plus. Et y compris chez les travailleurs, ça a eu un écho. Et c'est de fait, les militants syndicaux, ils ont ressenti aussi cette pression-là. Et beaucoup ont eu envie de faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de chouette que les syndicats aient fini par appeler à se mobiliser. Alors, bien sûr, on ne peut que regretter que ça se fasse séparément, ça, c'est sûr.
parle de, effectivement des répercussions sur les travailleuses et les travailleurs, sur le monde syndical. On peut quand même dire globalement que la confiance dans l'action collective, elle renaît dans tout le pays. Ça, c'est quand même un point qui est relativement incontestable. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme travail maintenant que cette confiance dans l'action collective renaît, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme travail pour que la confiance dans un outil comme la grève, elle renaisse, la grève comme outil de transformation sociale qui serait capable de déstabiliser l'économie et donc finalement pour obtenir des avancées sociales. Selon toi, quelles sont les étapes maintenant à franchir? Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui peut se passer?
Alors déjà, c'est vrai que c'est sûr que les Gilets jaunes, ils nous ont montré que malgré l'individualisme qui se développe de plus en plus, on a l'impression au quotidien, la solidarité, elle existe toujours. Y a des liens qui peuvent se créer entre des gens quand ils se mobilisent. Ils peuvent apprendre à compter les uns sur les autres, à se faire confiance, à essayer d'agir ensemble, à se poser les problèmes pour y réfléchir en commun. Et ça, c'est quelque chose de chouette. Et moi, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, quel que soit avec les vacances, ça diminue un petit peu, mais en tout cas ces liens, je pense qu'ils resteront et l'expérience qui va en être que vont en garder les gens qui sont mobilisés, elle va être précieuse pour la suite. Après, c'est sûr que cette confiance en soi, elle n'est pas allée sur le terrain de la lutte de classe et des travailleurs qui doivent prendre conscience que cette économie, c'est eux qui la font tourner et que si on veut réellement améliorer nos conditions de vie, augmenter notre pouvoir d'achat, il n'y a pas de secret. Il faudra que le patronat mette la main au portefeuille et puis paye, augmente les salaires, prenne sur ses profits pour payer les services publics, etc. Et ça, moi, je pense que c'est les travailleurs qui sont capables de le faire parce que c'est eux qui produisent tous ces profits-là. Par contre, cette conscience-là, elle n'est pas encore, partagée. Et effectivement, il y a plein de travailleurs dans le pays qui ont des sympathies pour les Gilets jaunes, voire qui vont eux-mêmes sur les ronds-points passer du temps et participer à ce mouvement-là, qui n'ont pas confiance dans leur force en tant que travailleurs pour pouvoir peser face à leur patron et pour pouvoir peser face collectivement face à l'ensemble du patronat pour imposer leurs revendications.
Alors, si tu es d'accord, Laurence, on va peut-être se poser maintenant la question des questionnements qui traversent le mouvement des Gilets jaunes. Alors, incontestablement, la question d'une envie de plus de démocratie, elle est réelle. On le voit sur les ronds-points. Micro-Rebelle a eu plusieurs reportages à Carrefour, ici, à Liévin, sur les ronds-points, à Hénin-Beaumont. Donc, cette envie de plus de place pour chacune et chacun dans les décisions collectives, c'est quelque chose qui, quand même, apparaît incontournable. Alors, une démonstration, c'est la popularité du référendum d'initiative citoyenne, qui est quand même relativement demandé. On peut cependant se demander si ce mot d'ordre ne risque pas de détourner une partie des Gilets jaunes de l'action directe qui permettrait d'obtenir des avancées sociales concrètes. Est-ce que tu as ce type de réflexion
C'est sûr que le mouvement, il a aussi poser le problème de la démocratie et de quel choix on a dans cette société, enfin pour les décisions qui pèsent dans notre vie, hein, que ce soit notre pouvoir d'achat, nos conditions de vie, les services publics, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que l'argent public devient, comment il est utilisé, comment les richesses plus généralement de cette société elles sont utilisées, on n'a absolument aucun droit de regard dessus et notre voix ne compte pas. Donc le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, il a permis à plein de gens de se rendre compte que la démocratie supposée dans laquelle on vit, où on va mettre un bulletin de vote dans l'urne tous les X années, ça ne nous permet pas de contrôler les choix politiques qui sont faits dans cette société. Et ça, moi, je pense que c'est une expérience importante
C'est un petit peu les masques qui tombent. On n'arrête pas de nous dire on a le choix parce qu'on va voter. C'est un mensonge. Les richesses produites, elles permettent de construire des hôpitaux, de permettre à tout le monde de se loger, ou est-ce qu'elles permettent d'aller faire des guerres, de construire des armes, etc. C'est des questions qu'on ne nous pose jamais. Et moi, je pense que c'est ce genre de questions-là qu'il faudrait qu'on nous demande. Enfin, sur ce genre de questions-là, pardon, qu'il faudrait qu'on se prononce. C'est ce genre de discussion-là qu'il faudrait qu'on discute, et c'est ces choix qu'il faudrait faire collectivement dans l'intérêt collectif. Je ne pense pas que le référendum d'initiative populaire, il permettrait ça. Parce que, en fait, on le voit bien à chaque fois qu'il y a un référendum qui est fait. C'est un référendum avec une question qui est posée par les classes dirigeantes. Ça existe par exemple en Suisse, ça a existé quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Bon, bah, même si on nous demande notre avis à nous, en fait, c'est sur une question qui est complètement biaisée. Et bien souvent, la question est posée de telle sorte que ça se retourne, ça prenne la forme d'un chantage. Enfin, je pense par exemple, moi ça me rappelle un petit peu la loi travail là, qui a donné la possibilité de faire des référendums dans les entreprises. Et il y a des militants qui ont fait le lien avec le premier référendum qui avait été fait à Bosch quand Bosch avait décidé de revenir sur les 35 heures et de faire travailler les salariés 37 heures payés 35. Et ça avait pris la forme d'un référendum où on demandait aux salariés: est-ce que vous êtes d'accord pour travailler 2 heures gratuitement en plus, ou alors on sera obligé de fermer la boîte? Bon, ben ça, c'est pas une question, c'est pas un droit de regard sur les décisions de l'entreprise, c'est vraiment un chantage. On t'oblige à travailler plus gratuitement, et le référendum, au lieu de rien nous demander du tout, il a cet avantage pour les classes dirigeantes de nous mettre un couteau sous la gorge et de nous forcer à accepter, dans le cas que je viens de citer, de travailler gratuitement. Et dans les questions de la société, ça serait... par exemple, je pense, en Suisse, il y a eu un référendum qui a concerné la TVA. Et la question portait sur... Donc, vu d'ici, c'était est-ce que vous voulez continuer à payer ou pas la TVA? Vu de l'extérieur, on a envie de se dire la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. C'est évident qu'il faut voter contre. Sauf que la question telle qu'elle était posée, c'était: la TVA permet de financer les hôpitaux, les écoles. Est-ce que vous voulez continuer à payer la TVA pour avoir ces services publics, ou est-ce qu'on supprime la TVA et il n'y a plus aucun service public d'éducation, de santé, etc. Bon, bah, c'est un chantage auquel les Suisses qui ont voté majoritairement pour le maintien des services publics, ce qui a été traduit par la population en Suisse est d'accord pour payer la TVA. Donc je ne pense pas que le référendum d'initiative citoyenne nous donnera plus de démocratie.
Y compris... Il peut détourner de l'action et des luttes des gilets jaunes engagés par ailleurs.
Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est sûr que là, un des aspects sympas des gilets jaunes qu'on a vu, c'est leur refus que des représentants parlent à leur place. Quand on a vu des représentants du gilet jaune aller... voir pour un entretien Édouard Philippe et refuser de participer à l'entretien s'il n'était pas filmé, retransmis en direct pour être sous le contrôle de l'ensemble des gilets jaunes. Bon, bah, moi je crois que c'est ça la démocratie, c'est le contrôle direct de l'ensemble des gens. Donc et mettre un bulletin dans l'urne, c'est pas ça qui nous permet d'avoir les échanges nécessaires pour prendre les décisions, et surtout le contrôle sur comment les décisions ensuite elles vont être appliquées.
Mais si tu es d'accord, on va terminer par une toute dernière question qui concerne les mesures prises par le gouvernement, par le pouvoir, par Macron. Alors bon, ces mesures, tu pourras en dire ce que tu en penses, elles peuvent sembler, ceci étant, dérisoires. Ceci étant, est-ce que leur principal problème, ça ne serait pas qu'elles révèlent de jamais toucher aux entreprises à leur profit et donc elles permettent d'évacuer les responsabilités. Comment tu réagis à cette proposition ?
Ah bah, c'est sûr que là, on a vu que Macron, en tout cas, c'était une sacrée épine dans le pied qu'il avait avec ce mouvement des Gilets jaunes. Et ça, ça a quand même fait bien plaisir de voir le président arrogant, méprisant envers les plus pauvres, les chômeurs, les retraités, etc., être obligé d'aller jouer un rôle qui joue assez mal d'ailleurs, mais pour prendre des mesures sur lesquelles il avait dit qu'il serait intransigeant. Après, c'est sûr que ces mesures, elles ont quand même comme point commun de ne jamais toucher au profit des capitalistes. Or ça, c'est un petit peu le fond du problème. Il n'y a pas de secret, des richesses dans la société, il y en a. Les moyens de vivre tous correctement, il y en a. Mais si on ne va pas chercher sur les profits, ça veut dire qu'on les payera nous-mêmes. Et là, toutes les mesures qui ont été prises, c'est des mesures où c'est l'argent public qui va permettre notamment, je pense le plus flagrant, c'est la soi-disant augmentation du SMIC qui en fait est une augmentation de la prime d'activité. Et ça veut dire que l'argent public va aller compenser le fait que les patrons payent des salaires trop bas. Et donc au final, c'est nous tous, y compris les SMICards, qui vont, par leurs impôts, financer la prime d'activité pour éviter de demander au patronat d'augmenter les salaires. Mais en fait, moi, j'en suis pas très surprise, parce que le président, enfin l'État, même là, il y a Macron, mais on l'a vu avant Hollande ou Sarkozy, leur rôle n'a jamais été de répartir les richesses en prenant les richesses des plus riches pour assurer à la population un niveau de vie correct. C'est un État qui est au service des ce qu'ils appellent les intérêts économiques de la France et des capitalistes français. Donc il ne faut pas s'étonner que Macron, là, aujourd'hui, préserve les intérêts de ces capitalistes. Si on veut les obliger, ces capitalistes, à payer pour qu'on puisse vivre correctement, c'est un autre rapport de force qu'il va falloir mettre en place.
Eh bien, merci Laurence, et merci à nos auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis Laurence, bonne continuation dans les luttes au Havre et en Normandie.
Merci.
So hopeless and romantic, friends can't even stand it. I would stand outside her window for a week if she demanded.
Give me more wine, please. Give me more wine.
Right away, sir. Right away.
Yeah, yeah. I just did that. I just did it. Did you see it? Did you hear it? Did you get it? Did you feel it? Are you with me? That's the spirit. She said, I ain't met nobody like you. She said, no one does it like you. She said, I ain't met nobody like you. She said, no one does it like blue.
Waiter, if I may, I think we'll take a look at the dessert menu after all.
Right away, sir. Right away.
I didn't choose this life. This life, it chose me. I didn't choose this life.
Check whenever you have a moment. Absolutely no rush.
place, eh? Right away.
C'était Mickey Blue, Right Away, sur microrebelle.fr, sur Radio PFM et sur Radio Plus. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, émission hebdomadaire enregistrée le vendredi en direct. On va maintenant écouter un interview de Jacques Testard qui a donné une conférence dans le cadre de Cité Philo et en partenariat avec l'Université pour tous d'Artois. Alors Jacques Testard, c'est un biologiste de la procréation, qui est père du premier bébé éprouvette en France qui s'appelle Amandine. Et il est co-auteur ici avec Agnès Rousseau d'un livre intitulé « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires du transhumanisme » paru en 2018 aux éditions du Seuil. Donc ça s'est déroulé le 19 décembre dernier à Arras. Alors Jacques Testard, merci de répondre à nos questions. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir le transhumanisme ou alors le post-humanisme ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Le post-humanisme, c'est ce qui viendra après grâce au transhumanisme. C'est comme ça que je le comprends. Mais le transhumanisme, c'est une idéologie qui profite des acquis assez extraordinaires des laboratoires de recherche depuis 3 ou 4 décennies, pour renouer avec des fantasmes immémoriaux. Alors ces acquis, c'est essentiellement dans le domaine du cerveau, de la génétique, bon, dans d'autres domaines aussi, mais ça c'est les plus importants. Et renouer avec des fantasmes immémoriaux, c'est-à-dire aussi bien avec les mythes anciens, des Grecs ou autres, qu'avec ce que tous les gamins pensent. Tous les gamins pensent qu'ils sont immortels, qui sont plus forts que le voisin, ou ils ont envie de l'être. Et le transhumanisme nourrit tous ces fantasmes-là en disant, grâce à la science récente, ça va devenir possible. Et c'est là que, je pense, il raconte beaucoup de balivernes.
Et alors, votre livre s'appelle « Au péril de l'humain ». Quels sont les dangers ?
Moi, je ne pense pas que la plupart des promesses des transhumanistes vont se réaliser. Donc, je ne pense pas que d'être immortel, par exemple, sera un danger, parce qu'à mon avis, on ne le sera jamais. Mais de faire croire qu'on peut l'être, c'est influencer quelque part la conception que l'humanité a d'elle-même. C'est modifier beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui l'humain, ce qu'on définit comme étant humain, ou même vivant, parce qu'il n'y a pas d'animaux immortels non plus. Hein. Et alors il n'y a pas que le problème de l'immortalité. Il y a qu'on sera plus intelligent, qu'on courra plus vite, qu'on sera en bonne santé éternelle, par exemple, en bonne santé. Bon, je pense que c'est un mythe. On voit bien que chaque fois qu'on chasse des maladies, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et que raconter qu'on sera un jour en bonne santé, je pense que c'est se moquer du monde. Donc, et en même temps, c'est quelque chose qui pousse les gens à croire aussi aux remèdes qui sont fabriqués réellement dans les laboratoires de recherche, et à croire que leur bien-être dépend du progrès médical, par exemple. Ce qui est vrai quelquefois, quand on a un cancer et qu'on peut être guéri, bon, c'est vrai. Mais le mieux, ce serait de pas avoir de cancer, et pour ça, de pouvoir avoir une vie saine, d'éviter les pollutions, bon, il y a un tas d'autres choses. Mais de faire croire aux gens que grâce à la science, on va leur donner les moyens de pas être malades, ça les pousse à consommer de plus en plus de médecine. Et les gens prennent de plus en plus de pilules, se surveillent, vont chez tous les spécialistes. Bon, c'est quelque chose qui les empêche de vivre et qui les modifie. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à l'état de santé dont parlent les transhumanistes, on va quand même emporter les stigmates.
Alors le transhumanisme, on est entre mythe et réalité, entre prophétie ou peut-être suicide, c'est aussi dans le titre de votre livre. D'après vous, c'est la promesse d'immortalité que nous propose le progrès scientifique, et donc d'arriver à une nouvelle humanité n'est pas réalisable. Il y a une fausse promesse ?
Oui, je pense que c'est une fausse promesse, parce que certainement que l'humanité va évoluer comme elle a évolué, mais pas du tout dans les proportions que racontent les transhumanistes. Et surtout que ça prend beaucoup de temps pour une évolution. que ce soit une évolution physique, biologique ou une évolution intellectuelle, mentale, comportementale, tout ça, ça prend du temps. Or, les transhumanistes voudraient tout bouleverser là, en une génération, puisqu'ils promettent le post-humain pour 2045. C'est dans 25 ans quand même. Donc c'est tout de suite. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'ils veulent tout changer de l'humanité à toute vitesse et partout. Donc ce serait quelque chose, c'est une promesse universelle et à très court terme, ce qui est le contraire de l'évolution. L'évolution travaille par petite dose. Elle modifie par exemple un individu par une mutation. Cette mutation est testée dans la nature, le plus souvent ça marche pas, elle disparaît. Et quand elle marche, elle peut se répandre progressivement dans le reste éventuellement de toute l'espèce. Mais ça prend un temps fou, ça prend beaucoup de générations. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens de revenir en arrière. Il y a des systèmes de contrôle. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de barrage. Ils prétendent que ce qu'ils ont décidé comme étant important, ça va devenir la règle, que ça va pouvoir se faire et que dans 25 ans, ce sera résolu.
Ce bouleversement amènerait quand même ce que vous avez appelé une rupture civilisationnelle. Est-ce que d'après vous, le danger, il serait plutôt éthique en quelque sorte ?
Bah oui, on peut dire qu'il est éthique, mais j'hésite à employer ce mot-là parce que on le voit bien, surtout là, cette année où on a la révision des lois de bioéthique, que finalement, ce qui sort de tous ces débats-là, c'est simplement la loi du progrès, c'est les intérêts des industriels, des chercheurs, c'est la compétition économique, et que finalement, l'éthique, c'est seulement une façon de faire passer la pilule sur les nouveaux modes de vivre qu'on va nous imposer à force de progrès, entre guillemets.
Là, on parle aussi d'économie. Quel est le lien entre le transhumanisme et le capitalisme? Est-ce que c'est la question technique?
Alors, il y a déjà un lien idéologique, on peut dire. Les transhumanistes, c'est des Américains à l'origine de Californie, et beaucoup s'inscrivent dans la tendance qu'on appelle libertarienne, qui n'a rien à voir avec le libertaire de France. C'est l'extrême droite. C'est-à-dire, on peut écraser le voisin, on peut tout, faut pas de sécurité sociale, faut pas d'école publique, faut pas d'hôpitaux. Chacun se bat et que le meilleur survive. C'est ça, le libertarisme. Donc c'est un truc qui est complètement à l'encontre de, en particulier, ce qu'on a vécu en France avec les conquêtes sociales de la libération. C'est exactement l'inverse. Alors déjà, de ce côté-là, on voit que ça sert le capitalisme plutôt que le socialisme, entre guillemets. Mais d'un point de vue carrément économique, il est bien évident que si Google et les autres, Facebook et tout ça, s'intéressent au transhumanisme, puisqu'ils financent abondamment ces recherches, c'est qu'ils ont des choses à vendre. Et ils ont à vendre un tas de programmes, que ce soit sur des robots, sur l'intelligence artificielle, sur les machines à faire du screening génétique, sur toute l'industrialisation finalement des examens, des contrôles, des diagnostics. Tout ça, ça rapporte évidemment de l'argent et ça s'inscrit dans une nouvelle économie numérique. Donc le transhumanisme fait partie de tout ça.
Un des problèmes aussi qui est mis en avant avec le transhumanisme, c'est le renforcement des inégalités sociales. De quel ordre c'est et quel rapport avec l'idée de l'homme-machine ?
Tout simplement parce que toutes les machines que nous promet le transhumanisme pour nous améliorer coûtent très cher. Alors, il y a déjà des choses, par exemple, si je parle du cœur artificiel, qui coûte cher, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas du transhumanisme de mon point de vue, parce que ça permet pas d'augmenter l'homme, ça permet de soigner quelqu'un qui a un cœur défaillant, c'est comme une greffe de cœur, mais il vivra pas plus longtemps que les autres, jusque-là il vit même beaucoup moins longtemps, malgré son cœur artificiel, parce que ça marche pas très bien. En admettant que ça marche, ça ne deviendrait du transhumanisme que si ce cœur artificiel permettait de vivre 3 ou 4 siècles, c'est-à-dire au-delà des limites naturelles de l'espèce humaine. On est très loin de ça, et je pense pas qu'on y arrive. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a un coût. C'est pareil pour les diagnostics génétiques, pour tout ce qui est de ces enquêtes qu'on veut faire, en séquençant le génome de chacun pour la médecine dite personnalisée, c'est-à-dire d'appliquer des traitements selon le génome de chacun. Tout ça, ça coûte une fortune. C'est bien évidemment pas pour tout le monde. La Sécu pourra jamais couvrir des frais pareils. Donc ça pourra peut-être servir aux riches, mais ça ne pourra pas servir à tout le monde. Les inégalités, elles sont là. Et c'est pour ça que les transhumanistes disent que ceux qui marcheront pas là-dedans, comme moi, puisque moi, on me traite de bioconservateur, parce que je crois pas et je me bats contre ces promesses. Mais ce sera les chimpanzés du futur. C'est tout Bon, ça en dit long sur ce que sera l'égalité dans la société à venir. Il y aurait les parvenus, et puis il y aurait les minables, qui sont les chimpanzés, qui serviront de bétail d'expérience, je ne sais pas quoi, de main d'œuvre. Non, ils ne visent pas du tout une société égalitaire.
Vous êtes le premier à avoir réussi un bébé éprouvette en France. Est-ce que par rapport à ça, vous avez peut-être le sentiment du docteur Frankenstein face à sa créature?
La fécondation in vitro n'a rien à voir avec la génétique. C'est une manipulation de cellules, ovules, spermatozoïdes, mais c'est pas une manipulation de gènes ou de chromosomes. Autrement dit, quand on fait un bébé à un couple dans une éprouvette, on lui fait le même bébé qu'ils auraient fait dans leur lit, mais ils pouvaient pas le faire. C'est tout. C'est comme ça que j'ai fait la fécondation in vitro, c'est comme ça que je continue d'être d'accord avec la fécondation in vitro. Maintenant, quand elle dérive vers un tas d'autres choses, en particulier vers le tri des enfants qu'on peut avoir, parce qu'on produit beaucoup d'embryons pour un même couple, et on va choisir le meilleur par un examen génétique, bon, j'ai dit dès les années 80 que j'étais contre cette pratique-là, puisque là c'est de l'eugénisme, c'est plus du tout de l'aide médicale à la procréation. Donc qu'on me reproche d'être Frankenstein, on me le dit souvent, mais d'abord c'est Frankenstein, enfin bon, on va pas parler du roman de Marie Shelley, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, je m'y oppose, parce que aussitôt que j'ai Amandine est née, donc ce premier bébé éprouvette en France, j'ai dit dans les mois qui suivaient, j'ai dit dans les déclarations, les interviews, il y en a eu beaucoup, que j'avais très peur de ça. J'avais très peur du tri des embryons qui à ce moment-là était impossible. Il est devenu possible 4 ans après. Mais j'ai écrit un bouquin en 1986, donc 4 ans après Amandine, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « L'œuf transparent ». Et c'était vraiment ça. L'œuf humain va devenir transparent, on va voir dans l'œuf, dès la fécondation, et on pourra trier les petits. Et à ce moment-là, on s'est beaucoup moqué de moi, les généticiens en particulier, en disant que ce serait impossible. C'est devenu possible 4 ans plus tard, et aujourd'hui, ça se répand dans le monde entier, et on trie les embryons sur des critères de plus en plus nombreux. Donc, je ne crois pas qu'on puisse me reprocher d'être responsable de ça. Ou alors, il faut reprocher, finalement, de faire de la recherche en général, ou de faire de la médecine, ou de faire... Parce que les gens aussi qui ont inventé des hormones sont responsables du fait qu'on fait produire beaucoup d'ovules à une femme, et qu'à partir de là, on peut faire la fécondation in vitro, par exemple. Et puis, on peut remonter comme ça. Donc, il y a un moment où il faut dire stop, où il faut situer une limite. Moi, j'ai situé la limite. Faire des enfants qui soient les mêmes que ceux que les parents auraient fait s'ils pouvaient. Mais pour des causes mécaniques, ils n'ont pas pu les faire. Voilà, c'est tout. Mais faire des enfants qui soient mieux que les enfants du hasard, j'étais pas d'accord et je suis toujours pas.
Ça m'interpelle ce que vous dites, et je me demande si en tant que biologiste, vous pensez qu'au final, la sélection des embryons, la sélection génétique, apportera à l'avenir une réelle amélioration de l'être humain ou pas, parce qu'en fait, à sélectionner, le hasard de la nature, les croisements génétiques participent à l'amélioration de l'espèce en quelque sorte, enfin d'un point de vue peut-être évolutionniste, je ne sais pas si je m'exprime bien.
Oui, non, je comprends bien, je ne sais pas si les auditeurs comprennent, mais je comprends bien parce que je remue ces concepts depuis longtemps et c'est une très bonne question. On va certainement avoir des moyens qui permettront d'avoir de plus en plus d'embryons dans un couple, en fécondation in vitro, et sans faire souffrir la femme comme aujourd'hui avec les traitements gynécologiques. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est des moyens de transformer des cellules banales, des cellules ordinaires, en spermatozoïdes ou en ovules. Ça s'est fait chez la souris, ça se fera chez l'homme, et ça va être une vraie révolution pour la procréation assistée. Et à ce moment-là, si on a des centaines ou des milliers d'embryons pour le même couple, qui sont tous frères, mais qui sont des faux jumeaux, ils sont tous différents entre eux, sauf quelques vrais jumeaux par hasard. Donc on peut là-dedans choisir, et dans le monde entier on choisira à peu près la même chose. Personne ne va choisir des enfants bancals, ayant du diabète, et chaque fois qu'on pourra éviter un risque de maladie, on va l'éviter dans tous les pays, en Chine, aux États-Unis, en Australie, en France. Si bien qu'on va finalement fabriquer progressivement une nouvelle espèce, si tout le monde passe par ce filtre-là. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde ne passerait pas à partir du moment où il n'y a plus de souffrance pour les gens qui vont subir ça. Puisque ça va se faire, ça va être des manips de labo à partir de cellules prélevées sur la peau, et que la Sécu prendra sûrement en charge, parce que ça évitera les grosses malformations et les maladies infantiles qui coûtent très cher. Mais en même temps, et c'était un peu dans votre question, ça va transformer l'humanité. Bon, il y aura des ratés, évidemment.
Bien, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview de Jacques Testard sur notre site, hein, micro-rebelle.fr. Donc ce micro-rebelle hebdo touche à sa fin. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, hein, contact@micro-rebelle.fr. En ce début d'année, on va très prochainement vous solliciter pour venir nous rencontrer, venir nous rejoindre, venir nous faire des suggestions. Dès la semaine prochaine, on essaiera de vous proposer un calendrier de rencontres, un calendrier très pratique aussi. On a des idées d'ateliers numériques, d'ateliers radiophoniques à vous proposer. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.